Alors, bonjour à tous, frères et sœurs. Toujours un plaisir de venir prêcher la parole de Dieu. Hein. Je prêche non pas ce qui me vient à l'esprit, mais le texte biblique, alors vraiment que Dieu soit glorifié au travers de ce texte prêché et qu'il en soit le seul élevé dans nos cœurs et dans l'Église. Alors, sans plus tarder, je vais commencer. Le titre de mon message se nomme « Vivre dans les derniers temps pour la gloire de Dieu ». Alors, frères et sœurs, cet après-midi, on poursuit justement notre marche dans l'Épître de Pierre et nous arrivons à un passage qui est à la fois court, mais en même temps très dense. Alors, j'ai divisé le texte en trois sections. Dans un premier temps, nous allons nous attarder à l'aspect eschatologique de la péricope. Nous chercherons à comprendre ce que Pierre veut dire lorsqu'il affirme que la fin de toute chose est proche et en quoi cette réalité devient le fondement de toute la vie chrétienne. Dans un deuxième temps, nous verrons comment cette réalité transforme notre relation avec Dieu et nous parlerons donc de vivre devant Dieu avec lucidité, sobriété et prière, comme Pierre l'exprime au verset 7. Et enfin, dans un troisième temps, nous examinerons les implications concrètes de cette espérance dans la vie communautaire. Nous terminerons donc en considérant ce que signifie vivre les uns envers les autres avec amour, hospitalité, service, comme le développent les quatre derniers versets de ma péricope, versets 8 à 11. Alors, sans plus tarder, je vous inviterai à vous lever et à ouvrir avec moi en 1 Pierre 4, versets 7 à 11, et je lirai les versets. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Alors, je vous inviterai à vous asseoir. Pour le premier point, l'eschatologie, dans le passage qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, le thème de la fin des temps structure toute la section. C'est à la fois le point de départ et la clé de la lecture pour tout ce qui va suivre. L'apôtre Pierre construit toute son exhortation du verset 7 à 11 à partir de cette réalité-là eschatologique. Mais pour bien comprendre ce qu'il affirme, il faut d'abord revenir au contexte immédiat. Dans les versets précédents, Pierre appelle les croyants à une rupture réelle, rupture d'avec la logique du monde, rupture d'avec l'ancienne vie, rupture avec la course collective vers les mêmes débordements de débauche. Et il reconnaît que cette différence rend les croyants étrangers dans leur propre environnement. Il dit que le monde trouve cela étrange et cette étrangeté devient souvent le point de départ d'une hostilité, parfois même d'une calomnie de la part des non-croyants. Et Pierre replace cela dans un cadre plus large. Il y a un tribunal du monde, oui, ce que je disais dans ma prédication précédente, mais il y a surtout un tribunal qui est plus haut, un tribunal qui est ultime, celui de Dieu. Et même la mort physique ne renverse pas ce verdict-là. Ceux qui ont reçu l'Évangile vivent selon Dieu, même s'ils ont été jugés quant à la chair, comme le dit le passage plutôt de 1 Pierre 4. Ils ont été jugés quant à la chair, c'est-à-dire condamnés, rejetés, voire mis à mort dans leur existence visible et terrestre. Donc, nous ne sommes pas en train de tourner une page comme si Pierre changeait complètement de sujet ici. Au contraire, 1 Pierre 4, 7 et 11 s'inscrit directement dans la continuité de ce qui vient d'être dit. Ça aurait été étrange que ça ne soit pas le cas. Et c'est ce que aussi le commentaire de Benetro souligne en disant que l'affirmation qu'on lit au verset 7, « La fin de toutes choses est proche », vient confirmer la place décisive de l'eschatologie dans tout le mouvement de 1 Pierre 3, 18 jusqu'à 1 Pierre 4, 11. Parce que c'est à partir de l'achèvement que la grandeur des privilèges des croyants et la réalité du jugement seront pleinement manifestés. C'est donc ici que tout bascule. Pierre prend cette réalité, la souffrance des croyants, le jugement des hommes, le verdict de Dieu, et le place dans une perspective finale. Il dit « La fin de toute chose est proche ». Autrement dit, Pierre y est en train de dire « Puisque Dieu va conclure l'histoire, puisque Dieu va juger, puisqu'il va manifester pleinement le salut qu'il a déjà révélé en Christ, puisque le monde présent n'est pas définitif, alors voici comment vivre pendant que nous attendons la pleine manifestation de son règne. Voici comment vivre dans ce temps où nous sommes étranges puisqu'étrangers dans ce monde. Ce temps entre les deux. Ce temps où le Christ est déjà ressuscité, déjà exalté, déjà Seigneur et pourtant où nous souffrons encore, où nous résistons encore, où nous sommes encore calomniés, où nous sommes encore tentés de nous décourager. Je veux que nous entendions le choc, mais aussi la précision de cette première phrase. La fin de toute chose est proche. Parce que très souvent, on peut entendre plein d'histoires concernant la fin des temps. La fin est proche. On peut s'imaginer automatiquement la fermeture complètement brutale du monde. Mais encore une fois, le commentaire de Benetro rappelle que le mot « telos » désigne l'accomplissement, le but vers lequel tout se dirige. Et ce but est devenu proche. Le texte grec utilise ici le verbe « enjiken » et il l'utilise au parfait. Alors, en grec, le parfait désigne une action qui est accomplie dans le passé, mais dont les effets demeurent aussi dans le présent et dans le futur. Pierre ne dit pas donc simplement « la fin est proche », mais qu'elle s'est approchée et qu'elle demeure maintenant proche. Alors, cette nuance-là souligne une réalité qui est déjà en marche, dont les effets se font sentir maintenant. Lorsque Pierre parle de la fin, il désigne l'accomplissement final du projet de Dieu, le moment où tout trouvera pleinement son sens. Un autre commentateur précise encore la réalité que Pierre n'annonce pas simplement un point final qui est dans le futur. Oui, il y en a vraiment un, mais il affirme que ce but s'est justement approché. Ça signifie que la réalité finale vers laquelle toute l'histoire converge est déjà entrée dans le présent et continue de s'imposer jusqu'à la pleine manifestation. Alors, autrement dit, il y a ici une tension. Le télos est déjà présent par son inauguration en Christ, mais il n'est pas encore pleinement manifesté dans son accomplissement final. Alors, cette réalité se trouve dans la personne et dans l'œuvre du Christ même. Tout a été créé par lui et pour lui. Christ est venu, il a accompli le salut à la croix et il est ressuscité. Christ règne maintenant en conduisant, je dis bien, l'histoire vers son accomplissement. Alors, lorsque Pierre affirme que la fin s'est approchée, il parle d'une réalité qui est déjà présente, comme je disais, mais pas encore achevée. Et c'est exactement la tension qu'on voit aussi partout dans le Nouveau Testament. Par exemple, Paul, en Romains 13, 12, dit « La nuit est avancée, le jour est proche ». Autrement dit, le monde ancien est en train de passer, le monde nouveau est déjà en train de surgir. De la même manière, Philippiens 4, verset 5, affirme « Le Seigneur est proche ». Et Jean, dans l'Apocalypse, ouvre son livre en Apocalypse 1, 3, « Le temps est proche ». Ce passage ne sert pas simplement à, comme je disais, annoncer un événement qui est lointain, mais à placer toute la vie du croyant, et c'est là qui est important, à placer toute la vie des croyants dans une réalité qui est déjà présente et en même temps dans une urgence spirituelle. Le monde tel qu'il est ne va pas durer. Un jour, Christ viendra juger les vivants et les morts lors de son avènement. Il est important de dire que cette réalité ne vient pas du monde lui-même. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle ne naît pas d'une évolution de l'histoire, ni d'une accumulation des crises ou des violences dans le monde, qui pousserait Dieu à venir intervenir à un certain point. Ce n'est pas le chaos qui appelle Dieu à intervenir, et qu'il se dirait « assez, c'est assez », mais la fin, c'est ça, la fin n'est pas déclenchée par le monde, elle est introduite par Dieu, et pour le redire, c'est Dieu qui, en Jésus-Christ, a fait entrer le télos, la fin, dans l'histoire. Et c'est lui qui conduit maintenant toutes choses vers son accomplissement. Il s'est approché et continue de s'approcher. Pour le dire dans les mots de Paul, en Romains 13, 11, car maintenant, le salut est plus près de vous, de nous, que lorsque nous avons cru. C'est précisément ici que l'argument de Pierre prend tout son poids. Il nous donne une réalité qui doit transformer même notre manière de vivre. Parce que si la fin s'est réellement approchée, si le télos est déjà là et se rapproche encore, alors la vérité ne nous pousse pas à l'inaction, on le sait bien. Elle appelle, elle demande une réponse. Elle exige une manière de vivre, autrement dit, toute la dimension eschatologique que nous venons de considérer trouve maintenant son sens dans l'appel concret que Pierre adresse aux croyants. Et c'est ce que nous allons traiter dans le deuxième point, d'être sage et sobre pour vaquer à la prière. Si la fin est proche, la vie doit être vécue avec lucidité et vigilance. Comme Jésus l'enseigne, veillez et priez. Matthieu 26, 41. Pierre nous explique la posture intérieure que le chrétien, que tout chrétien devrait avoir. Une lucidité sobre orientée vers la prière. Garder l'esprit saint et clair afin de pouvoir prier. La sagesse et la sobriété sont précisément ce qui pousse le croyant à se tenir dans la dépendance envers le Seigneur en prière. Et cette sagesse-là consiste, dans ce passage précisément, à reconnaître lucidement le temps dans lequel nous vivons. Nous vivons après la venue du Christ, après sa mort et sa résurrection, et nous avançons maintenant vers la pleine manifestation de son règne. Autrement dit, la sagesse, c'est de vivre en tenant compte que la fin de toute chose s'est approchée et que cette réalité doit orienter notre façon de vivre. Manquer de sagesse serait de vivre dans le monde comme si ce que nous vivions présentement était définitif. Ce manque de sagesse-là nous pousserait à vivre dans la témérité de ne pas chercher la face du Seigneur en prière et à être transformé de plus en plus à son image. Et la conséquence d'une vie téméraire serait l'amour du monde, d'adopter le mode de vie désordonné par les passions du monde. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est du monde, et voici la liste, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Autrement dit, ce serait être ivre des idées du monde, intoxiqué par sa manière de penser, par ses promesses, par ses peurs, par ses valeurs à elle, au point de ne plus lire la réalité à la lumière de la parole de Dieu révélée dans les Écritures. La sobriété va donc de pair avec la sagesse qui est décrite ici. Quand nous sommes sages et sobres, notre esprit reste clair et éveillé. Il n'est ni embrumé, ni intoxiqué par les valeurs du monde. Nous devenons capables d'évaluer correctement la situation et à discerner les temps dans lesquels nous vivons. Nous sommes dans un temps mauvais, nous dit l'Écriture. Le Christ a vaincu, mais nous ne voyons pas encore que toute chose soit soumise à son règne. Pourtant, l'Écriture nous fait voir Jésus ressuscité et exalté. Cela nous rassure qu'il revient et que son règne sera pleinement dévoilé. Lorsque le télos ne sera pas simplement approché, mais qu'il sera accompli définitivement. Cette sobriété-là s'exprime aussi d'une façon concrète, physique, et dans le sens premier du terme qu'on lit dans le texte, de refuser les excès qui endorment l'âme et brouillent le discernement. Les excès de table, de vin et plus largement tout ce qui affaiblit la vigilance spirituelle du croyant. Alors, dans ces deux sens-là, Pierre vise la même chose, un croyant sage, lucide, stable et prêt, parce qu'il vit dans une lucidité sobre en vue de la prière, qui se soumet à lui et qui reçoit de lui la force et la direction, même quand le temps mauvais, et surtout parce que les temps sont mauvais, et parce que la fin de toute chose s'est approchée. Et maintenant, notre texte bascule vers la plus grande portion de notre passage. Alors, je suis déjà dans mon point 3, qui sera un peu plus long que les autres. Alors, Pierre a débuté avec la relation verticale et maintenant passe aux relations horizontales de la vie communautaire. Il a commencé par l'intimité que le croyant doit avoir avec son Dieu, sagesse, sobriété, prière, la base de la vie chrétienne, et que sans cette droiture devant Dieu, tout ce qu'il va demander ensuite dans nos relations serait impossible à vivre. La prière véritable ne produit jamais une piété qui se limite à l'individu. Une vie de prière authentique te ramène vers Dieu premièrement, oui, et par la suite, elle te ramène aussi vers ton frère, vers ta sœur, et finalement, même si le texte d'aujourd'hui ne le mentionne pas, vers tous ceux qui sont créés à l'image de Dieu. Et voilà pourquoi Pierre dit immédiatement, « Avant tout, ayez un amour constant les uns pour les autres. » Et Benetro dit quelque chose d'important, que l'amour fraternel domine justement toute la section du passage 8 à 11 et se concrétise au verset 9 sous la forme de l'hospitalité et au verset 10 sous la forme du service rendu par les dons. Donc, l'amour est la grande réalité qui organise la vie interne de l'Église dans les derniers temps. La prééminence de l'agapé n'en fait pas une vertu exceptionnelle dans une hiérarchie morale, comme si l'amour était juste une vertu parmi d'autres, qui serait simplement peut-être un peu plus haute que les autres. Le texte nous dit plutôt que sans l'amour, il n'y a ni existence chrétienne, ni église. Ça veut dire que tu peux avoir une église qui est très active. Tu peux avoir une église très occupée. Tu peux avoir une église qui est très bien structurée. Tu peux même avoir une église très poussée dans sa théologie. Et pourtant, si l'amour manque, ce n'est pas seulement qu'il manque quelque chose d'important, c'est que l'essentiel manque. Alors, le mot « ardent » ou « constant », dépendant de la version, est un peu difficile à rendre en français. Il porte l'idée d'un amour tendu et étendu, qui n'est pas uniquement la chaleur des sentiments, hein, même si ça en fait partie, mais la force et la constance, la résolution de demeurer disponible, d'aimer les frères. Alors, l'amour que Pierre mentionne, c'est une résolution. C'est un choix qui demeure même quand tout est difficile. Et maintenant, Pierre ajoute une phrase, « Car l'amour couvre une multitude de péchés. » Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Peut-être un passage un peu compliqué. Arinck, un autre commentateur, explique que l'amour dont parle Pierre ne nie pas le péché. Hein, il n'est pas en train de nier le péché. Il le voit, il le reconnaît, mais au lieu d'en faire une arme ou de l'utiliser contre, il choisit de le couvrir en prenant sur soi le coût relationnel du pardon. Alors, je m'explique, là. C'est-à-dire en renonçant à entretenir la querelle, en refusant de relancer l'offense à son frère, en acceptant de pardonner encore et encore 70 fois, 7 fois, comme on peut lire en Matthieu 18, 21-22. Mais il faut être clair. Il existe aussi une lecture dangereuse de ce passage-là, celle où l'amour deviendrait un moyen de compenser ses fautes personnelles, comme si aimer beaucoup produirait un crédit spirituel qui rachète nos péchés par nous-mêmes. Dans 1 Pierre, couvrir ne peut pas vouloir dire expier ses propres péchés ou ceux des autres. Parce que l'Épître insiste, et toutes les autres épîtres de la Bible, insiste sur le fait que le Christ, c'est le Christ seul qui a porté nos péchés. Un commentateur du nom de Peter Davids conclut donc que Pierre utilise ici un proverbe pour dire que l'amour pardonne, qui passe par-dessus les fautes des autres dans l'Église, afin de préserver la solidarité. Alors, que veut dire « couvrir » dans le contexte immédiat, comme je l'ai mentionné un peu plus haut? C'est relationnel, de vouloir garder la relation. Pierre parle d'amour les uns envers les autres, puis d'hospitalité et de service. Donc, « couvrir » ici, c'est justement de refuser la contagion que pourrait amener le conflit, empêcher l'offense de créer la division, et maintenir la communion par un pardon réel les uns envers les autres, sans jamais confondre, et c'est très important, avec l'expiation qui appartient au Christ seul. Donc, le couvrir dans ce sens relationnel avec notre prochain est très important à comprendre. Il s'agit de l'action positive qu'un croyant peut avoir sur un autre croyant. L'amour chrétien dresse une barrière devant le mal. Il aide les frères à prendre conscience de leurs fautes, à surmonter leurs faiblesses, à ne pas s'abandonner à l'amertume et à l'esprit de querelle. L'amour pardonne quand il y a une offense. Il ne succombe pas à la contagion du mal. L'amour refuse d'entretenir la dispute dans ses rangs. Il pardonne, il passe par-dessus les offenses, comme je disais bien. Alors, c'est primordial vraiment pour préserver la communauté des croyants. L'amour ne dit pas ce qu'il ne dit pas, que le péché n'existe pas. Il dit que le péché ne règnera pas ici. Arinck, j'ai utilisé beaucoup de commentateurs dans cette prédication-là, Arinck pousse cette logique-là jusqu'à la logique eschatologique. Il dit que l'amour ne périt jamais en 1 Corinthiens 13, 8. L'amour ne finit jamais parce que l'amour trinitaire que Dieu est et donne, cet amour-là est la fin de toute chose. Si le telos, si la fin est proche et si le but ultime est la communion d'amour avec le Dieu trinitaire, nous qui attendons cette parousie-là, le retour du Seigneur, devons apprendre à vivre le langage du royaume. Et c'est quoi ce langage-là? Jésus dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Jean 13, 34. Et en Éphésiens 5, 2, on lit, « Et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui a dit plein de belles paroles. » Non. « Et qui s'est livré lui-même à Dieu. » pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alors oui, bien évidemment, il a dit des belles paroles, mais c'est un amour qui est en action. Et Pierre, comme un bon pasteur, comme à l'image du grand berger, ne reste pas uniquement dans le principe. C'est important de comprendre le principe, mais il n'en reste pas là. Mais il fait atterrir cet amour divin-là qui habite dans chaque croyant, dans une pratique qui est très concrète. Il dit « pratiquer l'hospitalité les uns envers les autres et sans murmure. » Alors, Benetro, mon commentateur préféré, nous rappelle une réalité historique. Il dit « l'insistance néo-testamentaire du Nouveau Testament sur l'hospitalité s'explique par les circonstances du premier siècle. » L'accueil dans les foyers permettait aux itinérants, aux missionnaires, visiteurs et aux frères qui étaient plus démunis de trouver ce qu'il manquait cruellement. Alors, parce que les auberges étaient inconfortables, dangereuses et parfois très coûteuses. Et même les rencontres des églises se tenaient dans les maisons. Donc, l'hospitalité était liée, était interreliée, pourrais-je dire, à la vie communautaire elle-même. Alors, Peter Davids précise ici une nuance qui est importante. L'hospitalité vise notamment l'accueil de chrétiens qui sont de passage, y compris des enseignants itinérants. Et cette pratique-là reliait vraiment concrètement les églises entre elles. Un service mutuel, elle se rendait des services mutuels, elle propageait la circulation de nouvelles, du soutien les uns les autres. Elle devenait encore plus essentielle, l'hospitalité, quand la pression et la persécution forçaient des croyants à fuir d'où ils venaient. Mais l'hospitalité coûtait réellement, surtout chez des familles vivant parfois au jour le jour, avec peu de moyens. Et Pierre ajoute ici, sans murmure, le terme vise les plaintes qui sont peut-être discrètes, des grognements dans le cœur, des frustrations quand on chuchote, quand les ressources sont courtes et l'espace est petit. Et Pierre appelle à un amour qui dépasse même ces résistances intérieures, ces frustrations-là qu'on peut vivre et qu'on ne devrait pas avoir. Donc, offrir l'hospitalité à des frères, c'était dans bien des cas une réelle nécessité pour eux. C'est une expression concrète de la communion entre frères et sœurs. Pierre utilise ici une idée très forte. L'hospitalité, c'est philoxénia, littéralement l'amour de l'étranger. Autrement dit, l'Église des derniers temps n'est pas une communauté qui se protège derrière des murs, mais c'est une communauté qui s'ouvre à l'autre. Et ça s'oppose directement à ce que le monde produit spontanément, qui est la xénophobie, la peur de l'étranger. Le monde se renferme, soupçonne, classe les gens par catégorie, nous, eux. Mais Pierre dit non, parce que la fin s'est approchée, nous vivons déjà le royaume qui s'en vient. Et ce royaume se reconnaît à ceci, l'étranger n'est pas d'abord une menace, il est un prochain qu'on accueille à bras ouverts et volontiers. Ça rappelle que l'amour en action est toujours coûteux. En temps, en argent, en énergie, en ressources, on pourrait allonger la liste. Mais assurément que nous aurons des victoires sur notre propre égoïsme, sur cette résistance intérieure qui veut garder son confort, son espace, son rythme de vie. Parce que l'hospitalité, c'est bien beau jusqu'au moment où ça commence à nous coûter. Jusqu'au moment où notre horaire est peut-être trop plein, où on est trop fatigué, jusqu'au moment où on a besoin de notre espace qui est juste à nous. C'est aussi intéressant de se rappeler que Pierre ne parle pas ici à des pasteurs. Il n'est pas juste en train de dire « Vous, les pasteurs, soyez hospitaliers », mais il parle à toute la communauté croyante. Et sans murmure vaut aussi dire de ne pas faire semblant, hein. Ne donne pas l'impression aux autres de servir tout en nourrissant la frustration à l'intérieur de toi. Alors ça, c'est le travail de tous et chacun de surveiller son cœur à ce niveau-là. Et pour la dernière section de notre point, il faut dire que Dieu donne des dons à tous et nous devons les utiliser. Et surtout, nous devons les utiliser sans établir une hiérarchie de dons, de valeurs, entre ces dons-là. Comme si un frère possédait un meilleur don qu'un autre. Hein, ce n'est pas des cartes Pokémon qu'on compare qui est le plus fort ou une carte de hockey. Hein, moi, j'ai un meilleur joueur que le tien. Mais on ne crée pas une aristocratie spirituelle. Certains ont des dons meilleurs que les autres. Pierre dit que chacun mette au service des autres le don reçu comme de bons intendants de la grâce variée de Dieu. Alors, tantôt, nous avions vu l'hospitalité, mais ici, nous parlons du service qui est une autre expression de l'amour. Les dons servent les frères parce que Dieu est celui qui les dispense et en confie l'administration pour la manifestation de sa grâce au travers des frères et des sœurs. Alors, chaque chrétien a reçu un don. Pierre ici parle d'abord d'une réalité spirituelle quand il parle au singulier. C'est pas simplement des habiletés naturelles. Tu as des talents, tu as une personnalité qui est utile, alors Dieu va utiliser ça. Mais c'est quelque chose que Dieu te confie, une capacité qui a été donnée par l'Esprit de Dieu au moment où Dieu t'a saisi et t'a placé dans son peuple. Et c'est ça, Pierre parle au singulier. C'est pas pour dire que Dieu n'accorde jamais plusieurs dons ou plusieurs formes de service. C'est plutôt pour personnaliser la réponse, la responsabilité. Je veux dire, toi, tu as reçu ton dépôt, le dépôt que Dieu t'a donné. Ce que Dieu t'a confié, c'est ta part à administrer devant Dieu. Et en même temps, Pierre affirme que cette grâce est variée, est multiforme. Dans l'Église, on voit forcément une diversité de dons et de services. Et Pierre lui-même le montre ensuite avec deux grands exemples. Parler et servir. Autrement dit, le singulier pour la responsabilité de tous et chacun concernant ce qu'il a reçu de Dieu, mais en même temps, ça inclut une diversité de dons dans le corps de Christ. Alors, comme je disais, il n'y a pas de hiérarchie de dons. Ceux qui parlent, hein, parlent les oracles de Dieu, parlent la parole de Dieu, mais ce n'est pas plus élevé que n'importe quel autre service dans la communauté. Et ce qui est plus important, c'est le pourquoi Dieu donne ses dons. Pas pour que nous les mettions en vitrine, pas pour que nous nous construisions une identité, mais pour que nous cherchions une reconnaissance de supériorité spirituelle. Dieu, comme je l'ai dit plus tôt, donne toujours ses dons pour le service, pour édifier, pour que le corps tienne, le corps de Christ tienne debout. Alors, ton don, et j'aime l'image ici, ce n'est pas un projecteur qui est braqué sur toi, mais c'est une lampe qui dirige et qui éclaire les autres. Nous sommes des intendants de Dieu et un intendant n'est pas un propriétaire. Il n'exhibe pas les biens du maître comme si c'était à lui. Il les gère. Il les administre. Il veille à ce que la maisonnée reçoive ce dont elle a besoin. Nous ne sommes pas des propriétaires de dons. Nous sommes des gestionnaires, comme le dit le texte, de la grâce de Dieu. Donc, le don n'est jamais un trophée. C'est une responsabilité que Dieu nous confie à tous et chacun. Et justement, parce que c'est un dépôt de la part de Dieu, ben il y a une redevabilité. On rendra compte par l'usage qu'on fait au service des autres. C'est ainsi que l'Église se manifeste réellement comme un peuple vivant. Nous sommes vivants, vivants de la vie de Dieu, alors agissons comme tels. Nous sommes vivants pas seulement parce qu'il y en a un parmi nous qui brille plus que les autres, mais plutôt parce que chacun d'entre nous administre fidèlement la grâce qu'il a reçue de Dieu au bénéfice de toute la communauté. Alors, Pierre ici simplifie, si on veut, en deux grandes familles de dons. Il n'en donne pas une liste exhaustive, mais il reste sobre. Si quelqu'un parle, si quelqu'un sert. Alors, si quelqu'un est appelé, comme je disais tantôt, à prêcher, ben qu'il le fasse bien, qu'il le fasse sérieusement, qu'il le fasse comme si c'était vraiment le texte biblique qui, c'est comme si c'est Dieu qui parle. Non pas parce que justement le prédicateur est Dieu, mais parce que Dieu parle sérieusement au travail de sa parole sainte qui, dans l'Église de Dieu, hein, on croit à la parole prêchée et c'est cette parole-là que nous croyons qui nous édifie toutes les semaines. Et celui qui parle n'est en rien supérieur aux autres. Au contraire, ça doit le rendre humble. Il est responsable de ce qu'il dit devant Dieu pour l'édification du corps de Dieu, du corps de Christ. Il prêche un message qui est de loin supérieur à lui. Et si quelqu'un sert d'une autre manière, qu'il le serve par la force que Dieu fournit. C'est Dieu qui fournit. Dieu assume lui-même la dépense. Dieu ne commande pas un service puis nous laisse nous débrouiller tout seul, mais il donne la force nécessaire spirituellement, matériellement, physiquement, émotionnellement. On pourrait en sortir une grande liste. Alors, servir dans sa propre force peut sembler peut-être efficace pendant un certain temps, mais mène à l'épuisement. Servir par la force que Dieu nous donne, c'est servir en dépendance. Dieu nous donne le vouloir et le faire. Il nous donne cette capacité-là d'accomplir ce qu'il demande. Il soutient le coût de cette demande-là. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Ici encore, on revient à l'eschatologie. Si la fin approche, alors tout ce que nous faisons doit être orienté vers Dieu et son royaume à venir. Et Pierre ferme la boucle avec une doxologie. À lui la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. La gloire et la puissance appartiennent à Dieu. Ce sont ses droits, ce sont ses attributs à lui. Et c'est justement pour cela que Pierre peut dire en toute chose. Quand l'Église parle, quand l'Église sert, quand l'Église aime son prochain, quand l'Église accueille les plus démunis, le but n'est pas que nous soyons admirés, reconnus devant les hommes, mais que Dieu lui-même soit reconnu, que sa bonté, que sa grâce se voient au travers de son peuple, que tout soit fait par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Alors, pour conclure, aujourd'hui, par cette petite portion de l'Écriture, Dieu veut qu'on retienne une chose, que nous ayons une vie qui est orientée vers lui. Il ne nous demande pas une vie parfaite, mais une vie qui est orientée dans la prière et pour rester lucide et dépendant de lui. Orientée dans l'amour pour refuser calamité entre nous. Ouais, pour refuser que justement cette communion-là entre nous soit déchirée, soit brisée. Hein? On désire la restaurer, on restaure des choses et on ne détruit pas. Un amour qui pardonne, qui couvre, qui protège l'unité quand c'est plus facile de critiquer que de bâtir. Orienter une église qui est orientée dans l'accueil, même quand ça coûte à notre confort. Orienté dans le service, chacun à sa place, sans comparaison les uns des autres, sans compétition, mais dans la dépendance envers notre Dieu. Alors, on peut se poser la question aujourd'hui, si quelqu'un observait notre semaine, est-ce qu'il verrait un peuple qui attend réellement le retour du Christ? Est-ce qu'il verrait une église qui prie, qui pardonne, qui ouvre sa table, qui sert parce qu'elle appartient déjà au royaume qui vient? Que le Seigneur fasse de nous ce peuple-là, non pas pour notre réputation, mais pour sa gloire à lui. Amen. Seigneur notre Dieu, par cette courte exhortation, par ces quelques versets, tu parles à nos cœurs. Seigneur, la fin s'est approchée par ta première venue. Et la fin, le jugement final, est plus près de nous que le jour où nous avons cru. Seigneur éternel, donne-nous de vivre fidèlement selon tes voies, de vivre fidèlement et dans l'amour les uns pour les autres, parce que c'est la seule chose qui restera à la fin. C'est cette communion avec le Dieu d'amour. Seigneur, notre Dieu, nous voulons bien dispenser des dons que tu nous donnes. Nous voulons les mettre à profit, non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de ton saint nom. Seigneur, si ce n'est pas de toi qui agit en nous, Seigneur, tout ce que nous le faisons mal. Seigneur, nous savons que tu nous as donné des dons à tous et chacun, pour les mettre en pratique les uns envers les autres. Ô notre Dieu, merci pour ta sainte parole qui éclaire nos cœurs, qui éclaire parfois des coins sombres où du péché se tenait. Seigneur, tu mets toutes choses en lumière. Ta parole est la vérité, ta parole est bonne pour nous. Seigneur, nous te remettons toutes choses, nous te remettons nos vies, tous et chacun individuellement, mais aussi en communauté. Apprends-nous à vivre les uns pour les autres, à vivre selon ta parole, selon tes exigences, à mettre en pratique cet amour. Ça ne reste pas des concepts simplement abstraits, mais que ça prenne vie en nous, dans nos relations. Restaure les relations brisées, Seigneur. Apprends-nous à pardonner comme toi tu pardonnes. Merci pour ton salut et pour ton grand amour. Seigneur notre Dieu, sois béni, sois glorifié encore en ce jour par les chants qui nous restent à t'adresser. C'est en Jésus, Père, que je prie. Amen.